L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 16h, ce samedi 10 mars 2018. Notre récit se situe à New York, et plus précisément au sein du Metropolitan Museum of Art. Dans l'aile nord de ce musée que les New-Yorkais appellent affectueusement le Met, une centaine de personnes se met à scander « Honte au sacleur » avant de jeter des flacons de pilules dans les douves entourant un temple égyptien. Les activistes affirment protester contre le mécénat d'une des plus riches familles américaines ayant fait fortune grâce à un médicament, l'oxycontine. Si cet événement militant peut d'abord sembler anecdotique, il fera la une de nombreux médias dans les jours qui suivent. Il faut dire qu'une des participantes à cette manifestation n'est autre que la célèbre photographe Nan Goldin. Son implication permet d'attirer l'attention de la presse et du grand public sur une crise sanitaire qui décime les États-Unis. Cette crise sanitaire, c'est la crise des opiacés qui tue chaque jour, tenez-vous bien, 175 personnes. Et ce samedi 10 mars 2018, les activistes pointent directement du doigt celles et ceux qu'ils estiment être les responsables de cette crise. L'illustre famille des Sackler. Mais qu'est-ce que l'oxycontine et la crise des opiacés? Qui sont les Sackler et quel est leur lien avec le plus grand scandale sanitaire du 21e siècle aux États-Unis? Il est 16h. C'est leur H de mon histoire. L'aile nord du Metropolitan Museum of Art, plus couramment appelé le Met, abrite l'un des plus grands trésors du célèbre musée new-yorkais. Il s'agit du temple de Dender, un monument construit sur les rives du Nil, il y a de ça quelques millénaires, deux pour être tout à fait exact. À la fin des années 1950, à l'occasion de la construction d'un barrage, de nombreux trésors archéologiques égyptiens étaient menacés par la montée des eaux provoquée par les aménagements d'un barrage. L'Égypte avait alors demandé de l'aide à l'UNESCO pour tenter de sauvegarder les nombreux temples. Ces derniers furent ainsi démontés brique par brique pour être reconstruits ailleurs, en sécurité. Le temple de Dender, qui se trouve au Met, aurait donc été enseveli sous les eaux du Nil s'il n'avait pas été offert par le gouvernement égyptien aux États-Unis pour les remercier de leur aide dans le sauvetage de ces monuments antiques. Et même s'il est de taille modeste, en comparaison à ses homologues restés en Égypte, ce temple, commandé par l'empereur Auguste, est magnifié par la mise en scène du Met. Dans cette aile nord du musée new-yorkais, un bassin a même été construit pour symboliser les eaux du Nil, au bord duquel se trouvait jadis cette précieuse relique historique. Cette eau, qui entoure le temple de Dender à la manière de douves, permet aussi la réflexion de la lumière qui entre naturellement par le mur totalement vitré longeant la salle d'exposition. Mais ce 10 mars 2018, à 16h, ce paisible samedi après-midi au musée est bientôt bouleversé. Ce ne sont plus les couleurs et les variations du ciel qui se reflètent dans l'eau, mais des centaines de petits flacons en plastique orange flottant à la surface du bassin. Ces petits flacons, typiquement américains, censés contenir des médicaments, ont été jetés dans l'eau quelques minutes auparavant par une centaine d'activistes. Leur geste était accompagné de leur voix, scandant haut et fort le mot « honte ». Ce mot puissant résonne dans cette salle d'exposition d'habitude, si silencieuse. Tout à coup, une petite femme à la chevelure d'un roux flamboyant s'extrait de la foule. Derrière elle, entre les deux statues d'un pharaon égyptien, deux militantes déroulent une large banderole noire sur laquelle on peut lire en lettres capitales blanches « Shame on Sackler », « Honte à Sackler ». La femme à la chevelure rousse, toute de noir vêtue, prend place devant la banderole et sort des feuilles de la poche de son manteau. Elle déclame alors des mots-clés que les activistes répètent les uns après les autres, comme « Sackler Family », « Pur du Pharma » ou le slogan le plus frappant, « Sackler's Lie »,« Thousands Die », les Sackler mentent. des milliers de personnes meurent. Et regardez de plus près, ce sont surtout à elle que s'intéressent les caméras présentes. Et pour cause, cette femme, qui semble être la leader de ce groupe d'activistes, n'est autre que la célèbre photographe du milieu underground new-yorkais des années 80 et 90, Nan Goldin. Elle-même est exposée au musée du Met. C'est d'ailleurs sûrement pour cela que le groupe n'est pas expulsé immédiatement du musée. Sous le regard interloqué des touristes et des visiteurs et visiteuses du jour, les militants s'allongent autour du bassin, étendus comme des corps sans vie. L'homme de la sécurité, qui a rappliqué dès le début de cette performance militante, les laisse donc faire. D'ailleurs, il n'aura pas besoin de négocier ou d'amener les activistes de force vers la sortie. Un simple « on y va ». De la part de Nan Goldin et tout ce beau monde sera sorti dans la minute, de leur plein gré. Après leur départ, le personnel du musée se presse pour ramasser les flacons polluant l'eau du bassin entourant le temple de Dender. Sur ces faux flacons d'ordonnance, on peut lire un mot. Oxycontine et une phrase prescrite par la famille Sackler. Interrogé par la presse à la sortie du musée, Nan Goldin précisera les revendications des militants et militantes. La crise des opioïdes gangrène l'Amérique et, selon elle, il n'y a aucun doute sur l'identité des responsables. Il s'agit de la famille Sackler, à l'origine de la création d'un antidouleur hautement addictif nommé Oxycontine. Pourquoi avoir choisi le musée du Met pour manifester ? Oh ben c'est bien simple. L'aile nord du musée dans laquelle se trouve le temple de Dender a été baptisée l'aile Sackler, après que la famille ait fait un don à hauteur de 3,4 millions de dollars pour financer sa construction en 1978. Avec cette action coup de poing, Nan Goldin et ses camarades souhaitent mettre en lumière l'hypocrisie des institutions culturelles. Des institutions comme le musée du Met qui acceptent de l'argent sale, de l'argent taché de sang, de la part d'une famille qui a fait sa fortune sur la dépendance et l'addiction mortelle des Américains aux opiacés. La photographe demande explicitement au musée de retirer le nom de la famille Sackler des murs de l'établissement. La philanthropie culturelle ne doit pas permettre aux Sackler de se donner bonne conscience et bonne réputation. Le musée du Met n'est d'ailleurs pas le seul à avoir accepté de l'argent de la part des Sackler. On retrouve leur nom dans tous les plus grands musées et les plus importantes galeries du monde. On peut par exemple citer le musée d'Harvard, la National Gallery à Londres ou encore plus près de chez nous, le musée du Louvre. En plus de l'effacement du nom des Sackler, Nan Goldin demande aux membres de la famille de financer massivement des traitements et des cures de désintoxication aux victimes de l'oxycontine. L'artiste et activiste termine son discours par une statistique glaçante qu'elle formule en ces termes. 150 personnes mourront aujourd'hui d'overdose, dont 10 pendant que nous manifestons. Avant de revenir plus en détail sur la famille Sackler, il nous faut comprendre l'importance et la gravité de ce qu'on appelle la crise des opioïdes ou opiacés. La crise des opiacés est l'un des problèmes de santé publique les plus importants auxquels les États-Unis ont été confrontés ces dernières années. Au cœur de cette crise, l'oxycontine, un puissant analgésique, c'est-à-dire un antidouleur délivré sur ordonnance et commercialisé dans les années 90 par la société pharmaceutique Purdue Pharma. Pour être tout à fait exact, l'oxycontine est un opioïde, c'est-à-dire un dérivé synthétique créé en laboratoire. Ce médicament est beaucoup plus fort que les opiacés, qui sont, eux, des dérivés naturels du pavot, comme c'est le cas de l'opium ou de la morphine. Les opioïdes sont donc des produits stupéfiants extrêmement addictifs. On estime qu'aujourd'hui, plus de 2,5 millions d'Américains sont accros aux opioïdes. Et c'est pas sans conséquence. En 15 ans, le nombre d'overdoses mortelles a triplé aux États-Unis. L'overdose y est devenue la première cause de mortalité accidentelle, devançant même les armes à feu ou les accidents de voiture. Preuve de la gravité de la situation, la crise des opiacés a même fait diminuer l'espérance de vie des Américains. Selon certaines estimations, la crise des opioïdes a entraîné près de 500 000 décès par overdose depuis 1999, rien qu'aux États-Unis. Près d'un demi-million de personnes. Ah, le chiffre est considérable. La crise des opiacés n'épargne rien ni personne. Elle touche tous les Américains, peu importe leur classe sociale, leur genre et même leur âge. L'artiste Nan Goldin, à l'origine de l'action militante au Met, a elle-même révélé avoir développé une addiction aux opioïdes après s'être faite prescrire de l'oxycontine pour calmer la douleur des suites d'une simple opération du poignet. Elle dit être devenue accro à ce médicament du jour au lendemain. Si bien que, comme de nombreux Américains, une fois son ordonnance d'oxycontine terminée, elle s'est tournée vers d'autres opioïdes comme l'héroïne ou le fentanyl, qui l'ont menée à frôler l'overdose fatale. Un schéma classique qu'ont suivi la plupart des 2 millions d'Américains qu'on estime être dépendants aux opiacés. Et pourtant, tout commence avec quelques pilules prescrites en toute légalité par des médecins. Comment cette drogue s'est-elle infiltrée dans toutes les armoires à pharmacie des Américains? Comment son usage a-t-il pu être ainsi banalisé? Mais surtout, comment un simple antidouleur a rendu toute l'Amérique accro? Restez avec moi, je vais vous l'expliquer.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache traverse l'océan Atlantique, direction les États-Unis. Je vous raconte l'histoire du plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle, la crise des opioïdes. Cette histoire, elle n'est pas terminée. Elle reste malheureusement encore d'actualité, car l'addiction aux opioïdes continue de faire des ravages à travers tout le pays. Une histoire qui commence presque toujours par la prescription d'un antidouleur appelé oxycontine et qui finit très souvent par une overdose, souvent mortelle. Dans cette histoire, vous croiserez une artiste et son collectif militant, des médecins complètement dépassés ou alors carrément corrompus, mais aussi l'une des familles les plus puissantes et les plus riches des États-Unis. Comme presque tous les jours en Virginie occidentale, les ambulanciers sont appelés en urgence pour une overdose. Située à seulement une centaine de kilomètres de la ville de Washington, D.C., cet État américain est le plus touché par la crise des opioïdes. Les ambulanciers sont habitués à agir vite. Ils savent que le temps est compté. Aujourd'hui, ils interviendront sur le parking d'un supermarché pour tenter de sauver un homme de 42 ans qui a pris la dose de trop. Demain, ce sera peut-être une femme dans une station-service, qui sait. Les personnes accros à ces médicaments dérivés de l'opium et de la morphine ont pris l'habitude de sniffer leurs cachets dans des lieux publics. La raison est simple. Consommer à la vue de toutes et tous permet de pouvoir être retrouvé et secouru en cas de besoin, et ainsi éviter l'overdose fatale. La crise des opioïdes ne fait pas de cadeaux. Tous les Américains sont touchés, de près ou de loin. Et pour cause. L'addiction à cette substance et ses dérivés déjouent tous les stéréotypes. Elle ne touche pas seulement les personnes en marge de la société et aux modes de vie alternatifs, non. Une personne avec une simple entorse douloureuse a pu se faire prescrire de l'oxycontine, particulièrement efficace pour combattre la douleur, mais aussi particulièrement addictif, si bien qu'on en devient presque immédiatement dépendant. Et puis, une chose en entraînant une autre, l'antidouleur est détourné de son usage premier pour être consommé de manière récréative. On l'écrase avec le dos de la cuillère pour le réduire en poudre et le sniffer. De toute façon, il n'y a qu'à fouiller dans l'armoire à pharmacie des parents, des amis ou du grand-père qui se fait soigner d'un cancer pour avoir accès à un opiacé. Ces pilules d'oxycontine, elles, sont à portée de main de n'importe quelle personne vivant aux États-Unis. La suite, on la connaît. Ou du moins, on la devine. Une fois la boîte de pilules terminée, si on n'a pas d'autres ordonnances ou qu'on est à court, on se dirige vers d'autres opiacés aux effets similaires disponibles sur le marché noir. C'est par exemple le cas de l'héroïne. Pour se shooter, il suffit d'une poignée de dollars ou juste d'avoir accès à l'armoire à pharmacie bien remplie d'un Américain moyen. Mais il serait bien trop simple de résumer la crise des opiacés à un schéma classique de prise de drogue, puisqu'il s'agit bien là d'un scandale sanitaire qui va bien au-delà de la responsabilité propre de l'individu. Le mal est bien plus profond. Et les Américains et Américaines sont les premières victimes d'un médicament très dangereux, qui a pourtant été validé par l'autorité de santé américaine. Alors, comment l'expliquer, ce scandale sanitaire, hein ? L'origine de la crise des opiacés est souvent datée dans les années 1990. C'est à la fin de cette décennie que l'oxycontine est introduit pour la première fois sur le marché américain du médicament. Il est présenté comme un analgésique hyper efficace, censé agir directement sur le cerveau pour supprimer la sensibilité à la douleur. Comme la morphine, l'oxycontine est un dérivé de l'opium, composé d'oxycodone, un stupéfiant classé parmi les plus dangereux par l'Organisation mondiale de la santé pour ses risques d'accoutumance. Ouais, pour simplifier, on pourrait dire que l'oxycontine est le cousin germain de l'héroïne, un cousin nettement plus présentable, disons. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, rappelons que l'opium provient du pavot, une plante cultivée depuis des millénaires par les humains. Ses propriétés thérapeutiques sont connues depuis l'Antiquité, tout comme les dangers liés à la dépendance. Tous les opiacés et opioïdes sont donc des dérivés plus ou moins synthétiques du pavot. C'est de là que vient l'oxycodone, qui compose l'oxycontine, dont je vous parle aujourd'hui. L'oxycodone est une molécule peu coûteuse à produire. Elle existait déjà dans de nombreux antidouleurs commercialisés sur le marché américain. La vraie nouveauté qu'introduit le laboratoire Pure du Pharma avec son oxycontine est la suivante. Il s'agit d'une pilule d'oxycodone pure. Au vu de son efficacité, le médicament est très vite considéré comme révolutionnaire. Par rapport aux autres antidouleurs sur le marché, l'oxycontine promet de soulager en continu pendant 12 heures. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut son nom. Contin étant le diminutif de Continuous. Et c'est le jackpot pour Pure du Pharma. Lors de sa mise en circulation sur le marché américain, le succès de l'oxycontine est quasi immédiat. On estime que l'antidouleur permet au laboratoire d'engranger plus de 35 milliards de dollars. Mais le succès suscite très vite de la controverse. Il apparaît rapidement que l'oxycontine crée une forte accoutumance et de nombreuses personnes auxquelles il avait été prescrit ont développé une dépendance dont elles n'arrivent pas à se défaire. Le marché noir qui entoure le médicament devient très vite hors de contrôle et surtout, il est complètement ignoré par le laboratoire. Les ordonnances sont vendues par des médecins. Les vols de pilules en pharmacie sont fréquents et le détournement de son usage est plus que commun. Très vite, la pilule est écrasée et sniffée pour amplifier les effets euphorisants. D'abord médicament, l'oxycontine devient drogue. Dès sa sortie dans les années 1990, le laboratoire Pure du Pharma qui le commercialise est sous le feu des critiques. Il va essayer de corriger le tir en 2010 en proposant une pilule plus difficile à écraser, plus difficile à réduire en poudre et donc plus difficile à sniffer. Mais l'essai n'est pas transformé. Pire, les conséquences de cette tentative d'oxycontine 2.0 sont désastreuses. Les accros à la première version du médicament sont en manque. Ne pouvant pas sniffer la nouvelle version, ils se dirigent vers d'autres drogues, leur procurant le même effet. Les alternatives, qui s'avère moins chère, mais aussi beaucoup plus dangereuse. C'est le lot de toutes les drogues d'être qualifiée de première étape vers une drogue plus puissante. Mais dans le cas de l'oxycontine, sa relation avec les drogues dites « dures » a fait l'objet de nombreuses études. Ces dernières ont démontré que ce médicament a initié l'explosion de la consommation d'héroïne. Une de ces études montre par exemple que 70% des consommateurs et consommatrices d'oxycontine se sont ensuite tournés vers l'héroïne, ou encore que 4 consommateurs d'héroïne sur 5 auraient commencé avec des opioïdes tels que l'oxycontine. Un chiffre d'autant plus terrifiant lorsque l'on sait qu'il s'agit d'un médicament prescrit sur ordonnance par un médecin compétent. L'indignation autour du médicament est renforcée par le mépris de Pur du Pharma. À propos des détournements du médicament, le directeur adjoint de la politique sanitaire du laboratoire, en poste à l'époque, déclare ceci. « Si je vous donne une branche de céleri et que vous la mangez, c'est bon pour votre santé. Mais si vous décidez de la passer au mixeur et de vous l'injecter dans les veines, ça ne sera plus le cas. » Une affirmation qui montre bien que le laboratoire ne prend pas ses responsabilités. Mais au-delà de toutes les polémiques et controverses autour du médicament, on se rend aussi très vite compte que l'oxycontine n'est pas si révolutionnaire que ça et qu'il est surtout vendu à grand renfort de publicité mensongère. En 2016, une étude confidentielle publiée par le Los Angeles Times révèle que sur les 12 heures de soulagement promises, l'oxycontine fonctionnerait pendant seulement 6 à 7 heures. Un petit mensonge qui a de grandes conséquences, puisqu'il entraîne un surdosage et donc une surconsommation, menant tout droit à l'addiction. On pourrait être tenté de croire en la bonne foi du laboratoire qui se serait laissé dépasser par sa propre création, à la manière d'un docteur Frankenstein qui ne sait plus contrôler le monstre qu'il a créé. Mais il n'en est rien. Pur du Pharma, la société responsable de la fabrication et de la commercialisation de l'oxycontine, a délibérément minimisé les risques du médicament tout en exagérant ses bienfaits. Et ce, afin d'augmenter les ventes du médicament. Au-delà des recettes mirobolantes, le véritable succès du laboratoire Pur du Pharma, c'est donc son génie marketing. Comme les médecins sont méfiants à l'égard du potentiel addictif des opioïdes, il faut absolument modifier leur mentalité pour les inciter à prescrire de l'oxycontine à leurs patients. Pur du Pharma a alors un objectif, faire passer le message qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et que la dépendance aux opioïdes est bien trop surestimée. Le laboratoire a alors recours à des médecins très influents qui affirment haut et fort que le potentiel abus des opioïdes est un fantasme, un préjugé de la médecine américaine. Ils vont même jusqu'à dénoncer la réticence des médecins à prescrire des opiacés en disant qu'il y a urgence à déstigmatiser. Bon, bien sûr, vous en doutez, ces médecins à l'éthique professionnelle plus que discutable étaient directement rémunérés par le laboratoire. Et le rôle de l'autorité de santé américaine dans cette histoire n'est pas plus reluisant. Le médicament a bel et bien été autorisé, sans même que Pur du Pharma n'est fait d'études sur les risques d'accoutumance et d'abus liés aux médicaments. Pire, l'autorité de santé a approuvé la commercialisation du produit et sa publicité basée sur le fait que l'oxycontine était plus sûre que les antidouleurs concurrents. Et, ah ben tiens, 2 ans plus tard, on se rend compte que la personne à l'origine de cette autorisation a rejoint la direction du laboratoire de Pur du Pharma. Ouais, on comprend mieux l'entourloupe. Finalement, en 2007, le laboratoire derrière l'oxycontine a reconnu, je cite, « avoir exploité les idées reçues du corps médical », en laissant croire que leur nouveau médicament n'était pas aussi puissant que la morphine. C'est pour toutes ces raisons que l'oxycontine est désignée comme le principal contributeur de la crise des opiacés qui touche les États-Unis depuis sa commercialisation à la fin des années 90. Derrière l'oxycontine se trouve donc un laboratoire qui n'a aucun scrupule à se livrer à un marketing et à un lobbying frauduleux, qui fournit des informations trompeuses et mensongères sur la dangerosité et l'efficacité du médicament. Mais qui se cache derrière le laboratoire Pur du Pharma? Eh bien, restez avec moi. Vous n'allez pas tarder à le découvrir.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'un des plus grands scandales sanitaires de notre époque. Un scandale à l'origine d'une crise qui a rendu toute l'Amérique accro et qui a causé la mort de près de 500 000 personnes aux États-Unis. Cette crise, c'est celle des opiacés et des opioïdes. Une crise si grave qu'elle a même fait reculer l'espérance de vie moyenne de la première puissance mondiale. Derrière ce scandale, le laboratoire Pur du Pharma, créé par l'une des familles les plus riches des États-Unis, la célèbre dynastie des Sackler. Une famille qui a construit son empire et sa fortune sur un antidouleur opioïde hautement addictif, l'oxycontine. Nous sommes le 10 mars 2022. Cela fait maintenant plus d'une heure que les témoignages s'enchaînent. Sur l'écran de l'ordinateur, les visages défilent et les histoires racontées se suivent et se ressemblent tristement. Le témoignage d'un homme qui a perdu sa femme, des suites d'une overdose à 32 ans, vient de se terminer. C'est au tour d'un couple de soixantenaires de prendre la parole et de raconter le décès de leur fils. La femme commence par faire écouter l'enregistrement de l'appel aux urgences le soir du drame, avant que son mari n'éclate en sanglots. Puis, un autre homme prend la parole. Il n'est pas là pour raconter la mort d'un proche, mais pour expliquer le calvaire qu'il vit au quotidien. Ce calvaire, il a commencé le jour où il a dû se rendre à l'hôpital pour une blessure au genou, et qu'il en est ressorti avec une ordonnance pour de l'oxycontine. La première d'une longue série. Encore aujourd'hui, il est dépendant à cet opioïde qui lui pourrit l'existence et qui a bien failli lui coûter la vie lors d'une overdose, il y a quelques années. Toutes ces histoires d'addiction et de mort, elles sont racontées à trois personnes ayant le même patronyme, Sackler. Ces témoignages, ce ne sont pas des vidéos qui se succèdent, mais bien une audience judiciaire qui a lieu virtuellement. Cette audience, c'est l'opportunité tant attendue par les survivants de la dépendance aux opioïdes et par les personnes qui ont perdu des proches dans cette crise sanitaire. Enfin, ils et elles vont pouvoir confronter les membres de la famille derrière Pur du Pharma, le laboratoire qui a créé l'oxycontine, que beaucoup considèrent comme étant à l'origine même de la crise. 4 ans jour pour jour après l'action militante de Nan Goldin et de ses camarades au musée du Met à New York, les responsables de la crise des opioïdes sont confrontés aux histoires de vie brisées par le médicament qu'ils ont créé. Comme le veulent les règles du tribunal, ils ne pourront pas répondre aux témoins. Ils devront écouter en silence. Si cette audience exceptionnelle a lieu, c'est bien grâce aux activistes qui n'ont cessé d'alerter les pouvoirs publics, mais aussi grâce à de nombreux médias d'investigation qui ont fait toute la lumière sur la responsabilité de la famille Sackler dans la crise des opioïdes. Aujourd'hui, 3 membres de la famille assistent à l'audition. Malheureusement, aucun des patriarches à l'origine de cette dynastie qui compte parmi l'une des plus puissantes des États-Unis n'est présent. Tous sont morts depuis longtemps. Sackler, S-A-C-K-L-E-R. Ce nom est visible sur tous les plus illustres bâtiments des États-Unis et même en Europe. C'est le cas, entre autres, du musée Guggenheim à New York, du musée Tate Moderne à Londres et même du Louvre, on l'a dit. En tout, la famille Sackler a laissé sa marque, ou plutôt son nom, sur des dizaines de monuments prestigieux. Pourtant, le site internet de Pur du Pharma le mentionne à peine. Quelle amère ironie quand on sait que c'est à cette entreprise et à son médicament phare, l'oxycontine, qu'ils doivent leur richesse colossale. Avec une fortune globale estimée à plus de 13 milliards de dollars, les Sackler entrent tout droit dans le top 25 des familles américaines les plus riches, situées quelque part entre la famille Anheuser-Busch, qui a fait fortune dans la bière avec des marques comme Stella Artois ou Hoegaarden, et la famille Rockefeller, qu'on ne présente plus. La famille Sackler fait partie de ces familles qui entretiennent le mythe du rêve américain, un mythe selon lequel l'argent et la reconnaissance ne sont qu'à portée de main, si on le veut vraiment et qu'on s'en donne les moyens. Et comme souvent aux États-Unis, l'American Dream de la famille Sackler part de rien. Tout commence à New York, dans les années 1920, lorsque cette famille d'immigrés juifs s'installe à Brooklyn. Le père Sackler est ukrainien, la mère est polonaise. Ils ont ensemble trois enfants, trois garçons, trois frères qui sont à l'origine de la fameuse dynastie Sackler. Leur nom ? Arthur, Mortimer et Raymond Sackler. À vrai dire, le véritable patriarche à l'origine de la dynastie Sackler, c'est Arthur, l'aîné des trois frères. Arthur Sackler a été formé par le disciple de Freud. Il est passionné de psychologie et de psychiatrie et s'intéresse surtout aux troubles psychiatriques. Il est persuadé qu'en rééquilibrant la chimie du cerveau, on peut éviter des méthodes barbares comme les électrochocs. Mais Arthur Sackler n'est pas le seul médecin de la famille. Ses frères Mortimer et Raymond le sont également. Même si les frères Sackler ont rédigé de nombreux articles scientifiques, ce n'est pas grâce à la médecine qu'ils font fortune, mais plutôt grâce au commerce. Le génie marketing des Sackler remonte déjà à leur adolescence. Pour payer ses études de médecine, Arthur a un petit boulot de rédacteur dans une agence de publicité spécialisée dans le domaine de la santé. Et il est si doué dans ce domaine qu'il finit par racheter l'agence. Alors que le secteur de la publicité redistribue les cartes de la vente, Arthur met la médecine et la santé au pas de course. Il comprend très vite que l'industrie pharmaceutique ne doit pas seulement séduire le patient. Elle doit avant tout plaire aux prescripteurs, c'est-à-dire aux médecins qui rédigent l'ordonnance. Grâce à sa clairvoyance visionnaire, Arthur Sackler est un véritable précurseur du marketing dans le domaine de la santé, pour le meilleur et surtout pour le pire. Bien que le patriarche de la famille Sackler soit mort en 1987, soit 9 ans avant la commercialisation de l'oxycontine, on voit bien son influence sur les techniques de vente qui entourent cet opioïde controversé. D'ailleurs, pour beaucoup, Arthur Sackler est à l'origine même de l'industrie pharmaceutique telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une industrie pervertie par l'argent, qui fait de la médecine et de la santé une industrie comme une autre, une industrie pour laquelle un médicament est un produit à vendre, au même titre qu'une barre de céréales ou un soda. Il faut dire que, déjà dans les années 60, Arthur Sackler avait mis à profit son génie marketing pour un tout autre médicament, le Valium. Pour concevoir la publicité autour de ce puissant tranquillisant, l'aîné des Sackler avait imaginé un argument commercial qui affirmait que le Valium était une sorte d'antidote à l'anxiété. Alors, effectivement, le Valium était très efficace. Ouais, le seul problème, c'est qu'aucune étude n'avait été faite sur le sentiment de dépendance que crée un tel médicament. En plus de cela, quelques années avant le lancement du Valium, on avait déjà recensé une étrange transaction ressemblant comme deux gouttes d'eau à un pot de vin, à savoir une transaction de Sackler au responsable des antibiotiques de l'autorité de santé américaine. Lobbying auprès des médecins, pot de vin, désinformation. J'imagine que ça vous rappelle quelque chose, non ? La commercialisation du Valium dans les années 60 ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de l'oxycontine dans les années 90. Toutes ces techniques de vente et de marketing, les frères Sackler les ont mises au point dans la petite entreprise familiale new-yorkaise achetée dans les années 50. Déjà à l'époque, Les commissions de régulation de l'industrie pharmaceutique sont particulièrement intriguées par l'entreprise des Sackler. Et pour cause. Leur entreprise Pure du Pharma, qui s'est d'abord appelée Pure du Frédéric, est totale, globale. Elle va de la conception du médicament à sa commercialisation, en passant par le brevetage, la conception de publicité ou encore la rédaction d'articles cliniques. Un modèle d'entreprise inédit qui permet à Arthur, Mortimer et Raymond Sackler de bâtir un empire familial qui grossit et les enrichit de manière fulgurante. C'est cet empire qui leur permet de devenir les plus grands mécènes des arts du XXe siècle. Grâce à son incroyable philanthropie artistique, Arthur Sackler est même considéré comme le Médicis moderne, en référence à l'illustre famille de la ville de Florence, adepte du mécénat. Véritable amour des arts ou moyen de laver son image et son argent, je vous laisserai en juger. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas la mort du patriarche Arthur Sackler qui empêchera le reste de la famille de réussir leur coup. Les frères et les héritiers d'Arthur s'apprêtent à commettre le casse du siècle en lançant son médicament phare, l'oxycontine, la poule aux œufs d'or du laboratoire Pure du Pharma. Il faudra attendre les années 2000 et même 2010 pour que les scandales autour de l'antidouleur éclatent. L'image de la famille Sackler change du tout au tout. Ils ne sont plus de généreux donateurs, mais des criminels à col blanc. La famille est vivement critiquée, au même titre que son entreprise Pure du Pharma, pour avoir profité de l'épidémie d'opioïdes tout en minimisant son rôle dans la crise. Les Sackler sont accusés d'utiliser leur richesse et leur influence pour éviter les polémiques et détourner les critiques, tout en continuant à tirer profit de la vente de l'oxycontine. Mais ces dernières années, le vent a définitivement tourné. Ouais, la famille Sackler et son entreprise pharmaceutique ont fait l'objet d'importantes poursuites judiciaires. En 2019, Pure du Pharma a déposé le bilan dans le cadre d'un accord avec le gouvernement américain qui l'accusait d'avoir alimenté l'épidémie d'opioïdes par ses pratiques commerciales. C'est dans ce contexte que la famille Sackler a accepté de verser 4,5 milliards de dollars pour indemniser les victimes de la crise des opioïdes. Malgré le dépôt de bilan et l'indemnisation des victimes, de nombreuses critiques estiment que la famille Sackler n'a pas été tenue pleinement responsable de son rôle dans l'épidémie d'opioïdes. Les poursuites en justice doivent aller plus loin. Les dégâts causés par l'oxycontine ne peuvent pas être simplement compensés par des transactions financières. Au-delà de la fin de leur prospérité économique et commerciale, on exige que les Sackler deviennent persona non grata et que les institutions culturelles arrêtent d'accepter leur argent sale. C'est bien cela, le combat de la photographe Nan Goldin et de son groupe militant dont je vous parlais un peu plus tôt. Mettre fin au prestige de la dynastie Sackler en retirant leur nom des murs des musées, galeries et universités auxquelles ils ont donné de l'argent. Oh, bien sûr, il serait trop simple de résumer la crise des opioïdes à l'oxycontine et de remettre toute la faute sur les Sackler. D'autres opiacés ont évidemment conduit à de nombreuses overdoses mortelles. Mais l'oxycontine, commercialisée par Pure du Pharma, a en quelque sorte créé les conditions idéales au développement de la crise des opioïdes en poussant les médecins à prescrire de puissants opiacés en tant qu'antidouleurs. Toujours est-il qu'en 2016, le président américain de l'époque, Donald Trump, tire la sonnette d'alarme. Il qualifie alors la crise des opioïdes de « fléau national » et décrète l'urgence sanitaire. Mais 3 ans plus tard, une crise en chasse une autre. La pandémie de Covid-19 fait oublier la crise des opioïdes qui décime l'Amérique. Pourtant, Le coronavirus n'a rien arrangé. Au contraire. Dans cette période particulièrement anxiogène, la consommation d'opiacés a explosé. En plus de cela, l'isolement du confinement a fait que de nombreuses overdoses, qui auraient pu être prises en charge en temps normal, ont mené à la mort. Aujourd'hui, face à l'aggravation de la crise, le président des États-Unis, Joe Biden, a renouvelé l'engagement du gouvernement dans la lutte contre les opiacés. Lui-même est particulièrement touché par ce problème, puisque un de ses fils a également souffert de problèmes d'addiction. Quand je vous disais qu'aucune personne américaine n'est épargnée par cette crise sanitaire. La controverse autour de l'oxycontine et de la famille Sackler nous éclaire sur les liens complexes entre l'industrie pharmaceutique, la santé publique et la crise des opioïdes. Il ne fait nul doute que l'oxycontine a permis à de nombreuses personnes en souffrance de soulager leurs douleurs. Mais les techniques de marketing agressives et la corruption qui entoure le médicament nous disent bien les dérives d'une industrie pharmaceutique écœurante, obsédée par l'argent au détriment de la santé. En tout cas, les récentes victoires judiciaires et symboliques obtenues contre la famille Sackler montrent que l'impunité de la richissime dynastie touche à sa fin, du moins aux États-Unis, contrée que la famille a préféré quitter pour trouver refuge en Suisse. Pour ce qui est de la crise sanitaire, l'enjeu est de taille pour éradiquer définitivement la toxicomanie dans ce pays ravagé par la drogue. Les défis pour y parvenir ? S'attaquer aux causes profondes de la crise. Une meilleure prévention et surtout, une meilleure prise en charge des personnes dépendantes, encore largement stigmatisées et abandonnées par le gouvernement américain. Voilà pour ce récit glaçant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Clara Brelot.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.